Et midi ben... sur France Culture. On commence par les titres du journal de Midi et demi que vous nous présentez dès maintenant. Antoine, merci, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le président François Hollande confirme ce matin à Calais la décision du gouvernement de démanteler complètement et définitivement, dit-il, le camp de migrants. Le chef de l'État demande aussi aux Britanniques de prendre leur part. Analyse tout à l'heure de cette intervention avec Marie-Pierre Véraud. L'appel à la grève des médecins hospitaliers qui semble assez bien suivi ce matin. Appel lancé par les principaux syndicats pour réclamer une meilleure appréciation de leur temps de travail, une revalorisation aussi des carrières, suivie du conflit avec Bénédicte Robin. Des dizaines de millions d'Américains s'apprêtent à regarder le premier débat présidentiel entre le républicain Trump et la démocrate Hillary Clinton. On ira tout à l'heure à Washington avec Frédéric Carbone. Les quartiers d'Alep, tenus par les rebelles, toujours bombardés sans répit par les Syriens et par les Russes. La situation humanitaire devient catastrophique avec une pénurie grandissante d'équipements médicaux et de nourriture. Suivi des combats avec Éric Biegala. Et puis la Colombie vit une journée historique avec la signature officielle d'un accord de paix entre la guérilla des FARC et le gouvernement pour mettre fin à un conflit armé de plus d'un demi-siècle. Commentaire et rappel historique avec Nadine Epstein. L'invité de la séquence interview, Marielle de Sarnez, vice-présidente du MoDem. Voilà donc pour ces titres. Et c'est donc à vous, Olivier Jesbert, la grande table.
Première partie. Bonjour à tous. Comme un lundi, on marche sur les pas d'un écrivain qui a douté et on s'offre une seconde jeunesse. Réfléchir dans la deuxième partie de la grande table, qu'est-ce que la philosophie a à dire de la jeunesse, voire à la jeunesse, à la manière de Socrate, Alain Badiou veut corrompre la jeunesse. Le philosophe communiste est notre invité pour un court essai qui vient de paraître, La vraie vie chez Fayard, nostalgique. Mais d'abord, flâner avec le grand écrivain espagnol Antonio Muñoz Molina de passage à Paris pour Comme l'ombre qui s'en va, son dernier roman paru au Seuil entre Enquête, introspection sur les pas de l'assassin de Martin Luther King et sur ceux de l'écrivain qu'il fut dans un Lisbonne revisité, anti-mélancolie. La grande table se tweet, se like et se télécharge sur franceculture.fr et dans tous les cas, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30.
La grande table. Olivier Jesbert.
Direct from our newsroom in Washington, this is the CBS Evening News with Walter Cronkite.
Good evening. Dr. Martin Luther King, the apostle of nonviolence in the civil rights movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee. Dr. King was standing on the balcony of a second floor hotel room tonight when a shot was fired from across the street. They rushed the 39-year-old Negro leader to a hospital where he died of a bullet wound in the neck.
Bonjour Antonio Muñoz Molina.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et bonjour à votre voix française, Paloma Goulemot. Bonjour à vous.
Bonjour.
Que s'est-il passé à Memphis le 4 avril 1968 aux alentours de 18h, Antonio Muñoz Molina?
Lo que... Je parle en espagnol, non?
Muy bien.
lo que pasó esa tarde fue... Fue algo que estuvo a punto de no suceder, ¿no?
Ce qui s'est passé cet après-midi, c'est quelque chose qui a failli ne pas arriver.
Porque el James Earl Ray,
parce que James Earl Ray
ha encontrado por casualidad una habitación en una,
a réussi à trouver une chambre vraiment
para,
par hasard
para
dans
para,
un hôtel qui était pour alcoolo.
Se llama un Fleabag Hotel.
Un hôtel de seconde zone.
Y estaba rondando a Martin Luther King.
Il suivait en fait Martin Luther King et cette même après-midi,
se ha asomado a la ventana de su
Martin Luther King a regardé par la fenêtre de sa chambre.
Y ha visto de pronto a Martin Luther King en
enfin,
el balcón.
James Earl Ray s'est assommé à la fenêtre de sa chambre et a vu Martin Luther King au balcon.
Entonces ha ido inmediatamente a buscar
c'est alors qu'il est allé chercher donc, son fusil, son livre.
Había una distancia de 60 metros.
La distance était de 60 mètres.
Entre el cuarto de baño de
cette distance qui séparait en fait la salle de bain de l'hôtel où était James Earl et le balcon où se trouvait Martin Luther King.
Cuando ha llegado a la ventana,
lorsqu'il s'est approché de la fenêtre,
Martin Luther King había desaparecido.
Martin Luther King avait disparu du balcon.
Estaba a punto de atardecer.
Et la nuit tombait.
Y de pronto lo ha visto aparecer de nuevo.
Et c'est là qu'il l'a revu.
Écrivain espagnol, auteur de L'hiver à Lisbonne, de Pleine Lune, de Tout ce que l'on croyait solide, vous vivez aujourd'hui entre Madrid et New York et vous nous revenez avec Comme l'ombre qui s'en va, au seuil, une enquête à la fois littéraire, policière et historique sur un fait divers devenu majeur du XXe siècle, l'assassinat de Martin Luther King, dont vous venez de nous raconter cet instant. Et on vient d'entendre aussi un titre des médias qui annonçait la mort du célèbre pasteur afro-américain, Voix des sans-voix, ici les éboueurs en grève, militant pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. C'est d'ailleurs en vous rendant à Memphis que vous choisirez de donner de la voix à Martin Luther King dans votre roman. Après avoir plaidé coupable, son meurtrier s'est ravisé, Antonio Muñoz Molina, et il a clamé son innocence jusqu'à son dernier souffle. Le confondre ou le réhabiliter, ce meurtrier, ce n'était pas le propos de votre livre, selon vous ?
Non, uno no sabe cuál es el propósito de un libro.
Vous savez, lorsqu'on se lance dans l'écriture, on ne sait jamais quel est l'objectif. On n'écrit pas parce qu'on a un objectif ou une idée derrière la tête. On écrit parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse à écrire. Il y a quelque chose qui vous incite à trouver quelque chose. Et moi, j'ai découvert... En lisant une biographie, que cet homme, après avoir assassiné Martin Luther King, a fui à Lisbonne.
Ce qu'il conteste d'avoir tué Martin Luther King. Jusqu'au bout de sa vie, il a contesté avoir tué Martin Luther King, attribuant cet assassinat à un certain Raoul. Il l'a beaucoup écrit, ce coupable déclaré, mais lui rejette cette responsabilité.
Yo creo que él era culpable.
Moi, je crois qu'il était coupable.
Raoul nunca apareció,
n'est jamais apparu.
Probablemente tenía algún cómplice.
Il avait probablement un complice.
Pero eso no se sabe,
mais
no?
On n'en est absolument pas sûr.
Pero esa parte no me parece más tan importante, ¿no?
Pour moi, cette partie n'est pas si importante.
Lo que me parece importante
ce qui, à mon sens, est important est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans l'esprit de cet homme au moment où il commet cet acte
completamente casual en que lo hace,
qui est vraiment un moment qui tient du hasard, en fait. Parce que cinq minutes après,
ya no habría luz suficiente,
la lumière n'aurait pas été suffisante
para disparar, no?
Pour pouvoir tirer.
Y también me preguntaba qué
et
había
puis je me posais
la,
cette question,
que
pouvait-il se passer dans la tête de Martin
vida, no?
Luther King aux derniers instants de sa vie.
Y por eso he tenido la,
c'est pourquoi
la
j'ai osé,
de novelista,
comme
de
romancier que je suis,
intentar ponerme
d'essayer de me mettre à la place et dans l'âme même
de
l'assassin et de Martin Luther King.
Eso es lo que quiere hacer la novela.
Et c'est ça le but du roman.
Digo, la novela como género, ¿no?
Moi, je parle du roman comme un genre littéraire.
Un poco más allá de lo que se
on veut
saber.
Dépasser ses limites, aller un peu plus loin.
Alors justement, sur ce beau mot de roman que vous avez choisi d'accoler sur cet ouvrage que vous avez écrit, après avoir plaidé coupable, donc on le disait, le meurtrier s'est ravisé, vous partez de l'idée qu'il l'était, mais cette cavale qu'il a réalisée après avoir tué Martin Luther King est surtout prétexte à vous raconter votre passé, vos débuts d'écrivain, le processus littéraire, vos aspirations, vos frustrations, vos déambulations aussi dans Lisbonne sur les pas d'un homme qui a vraiment existé, et puis sur vos propres pas dans l'ombre de l'hiver à Lisbonne, votre deuxième roman qui était paru en France dans les années 90, en 90 même. Et on sent que vous cherchez aussi cette trace indélébile que vous avez peut-être laissée, qu'on laissera tous à un moment ou à un autre. Il y a beaucoup de vous dans ces pages, dont vous faites pourtant un roman. Comment vous définissez le roman ? Quelle frontière entre le réel et la fiction ?
Si, il y a une chose que je veux...
Je voudrais préciser un point sur cette apparition que je fais au sein de ce roman. Parce que parfois, on parle d'autofiction et l'on vous dit non, là ce n'est pas une autofiction, c'est une confession. Dans le sens où, voilà, c'est l'usage.
Entonces, ¿qué es la novela?
Alors,
me pregunta, ¿cuál es la
vous me demandez
de la
quelle est la frontière entre la fiction et le roman.
La frontière,
la frontière elle est très claire. Voilà. Vous avez un historien qui va vous raconter
que se sabe objetivamente,
tout ce que l'on sait et de manière objective.
Lo que no puede hacer nunca
ce qu'il ne peut absolument pas faire, cet historien, c'est oser
à adivinar,
deviner, adivinar ou tenter de deviner quelles sont les pensées ou les sentiments qui traversent cette personne. Et ça, c'est le roman.
Et vous dites justement que la part de soi que l'écrivain met dans la fiction, c'est à la fois un moyen de se confesser, mais vous dites aussi qu'un roman s'écrit pour se cacher. Donc reste à savoir ce que vous n'avez pas raconté de vous dans ce livre. Je ne sais pas si on a le temps de dire tout ce que vous n'avez pas dit. Juste sur cette description du roman, vous l'écrivez parce que vous racontez vraiment ce qui est pour vous le processus littéraire. Pour vous lire quelques instants, le roman simplifie la vie, la simplifie et la tempère. Il engendre sa propre fièvre, surtout quand on a l'intuition que sa fin approche. Grâce au roman, ma curiosité, si dispersée, se concentre sur un seul sujet. Un peu plus loin, le roman fait entrer la vie dans ses propres limites, mais l'ouvre en même temps à toute une abondance de trésors cachés, à une spéléologie ou une archéologie sous-marine de gisements situés hors de soi et en soi, et qu'on est le seul à pouvoir explorer. On écrit même lorsqu'on n'est pas en train d'écrire. L'imagination narrative ne se nourrit pas d'inventions, mais d'événements survenus. Chacun des faits mineurs ou banals que l'on vit ou que l'on découvre lors des recherches peut-être une trouvaille précieuse ou même décisive pour le roman, y occuper une place minuscule et précise comme ces pierres si variées des trottoirs de Lisbonne. Extrait de « Comme l'ombre qui s'en va », votre roman, Antonio Muñoz Molina, paru au Seuil et traduit de l'espagnol par Philippe Bataillon. Vous vous êtes senti un peu rattrapé quand même par cette affaire, Antonio Muñoz Molina, par l'affaire de cet homme, James Earl Ray, qui a tué Martin Luther King.
Je suis attrapé, je suis obsédé.
Non, j'ai pas été attrapé, j'étais complètement
obsédé. Ah oui, obsédé, ça c'est sûr.
Je ne sais si c'est lié, non?
Non, je ne crois pas qu'il y ait vraiment un choix.
Cada vez cuanto mayor me hago, cada
en vieillissant, je me rends compte que l'intelligence ou la conscience ou même la volonté n'ont rien à voir avec la création littéraire. Elles n'ont pas d'influence. Vous savez, pendant des mois, j'ai vécu
enfermo.
Malade.
Enfermo,
mais vraiment malade, feliz. C'était une maladie très joyeuse. Hein.
Porque vivía,
parce que
en internet,
je vivais, je passais mon temps à éplucher les archives sur internet du FBI, de la police, tous les rapports des légistes. J'étais totalement enfoui dans ce travail.
Et c'est pourquoi
je dis que le roman simplifie la vie, parce qu'au final, je n'avais que ça à faire, et je ne voulais faire que cela.
Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que ce roman, dans sa structure même, procède d'un vrai dédoublement de personnalité. Hein. La vôtre et celle de James Earl Ray, l'assassin de Martin Luther King. C'est quand même assez étonnant de mettre sa vie en miroir avec celle d'un assassin, d'un meurtrier en fuite. Quel écho sa vie à lui a eu en vous, ou avec la vôtre?
Bueno, esa es una pregunta interesante. Yo también me la hago.
Oui,
¿no?
Vous savez, c'est une question très intéressante parce que je me la pose aussi.
Porque mientras cuando yo escribía,
alors, quand j'écrivais,
me preguntaba,
je me posais cette question.
Pourquoi estoy tan interesado en este
cela m'intéresse
personaje,
tellement,
tan
pourquoi
¿no?
ce personnage tellement désagréable m'intéresse.
Pero es, yo no tengo una respuesta para eso.
Alors,
yo creo
je
ne
peux pas vous répondre. Je crois qu'au final, la réponse, elle est laissée libre, elle est laissée à toute liberté au lecteur.
Hay algo en común, y es que,
il y a un point commun.
Ray vivía simulando siempre.
Ray a toujours vécu dans le simulacre. La première fois que je suis allée visiter Lisbonne, j'étais aussi dans un simulacre. C'est vrai qu'on peut pas comparer les deux,
mais je crois que
n'importe qui peut comprendre quelqu'un d'autre.
Quel simulacre? Le vôtre?
Le mien, le simulacre de ser un hombre,
celui d'être
empleado público,
un fonctionnaire,
casado,
marié,
con hijos, con
avec
una,
des enfants,
una vida, con
avec
una vida
une
regulada,
vie
con un futuro,
très régulière,
con un futuro
et avec un avenir tout tracé.
El simulacro de ser
ce simulacre selon lequel on est soi-disant une bonne personne,
qui travaille
un avec un travail sérieux
et qui siente
et
que
qui,
está interpretando
au fond,
un papel.
A l'impression qu'il joue un rôle.
Oui, il y avait quand même cette double vie, parce qu'il y a ce fonctionnaire établi, installé, que vous racontez, qui est plutôt celui des week-ends à Madrid, et puis c'est cette semaine, ou ces semaines et ces nuits un peu folles à Lisbonne, l'alcool, l'écriture, les rencontres. Il y a ce point commun que vous avez avec James Earl Ray, mais il y a aussi l'amour de la lecture et de l'écriture. Il y a visiblement chez vous deux un désir d'évasion, d'être un autre, de se chercher soi-même. Et vous le racontez hein, au début de l'ouvrage, le rêve dont je me suis éveillée aurait pu être le sien, même s'il n'y apparaissait pas. J'ai passé trop d'heures immergée dans sa vie, des jours entiers depuis mon arrivée à Lisbonne. Un peu plus tard, même à la fin du livre, vous écrivez « Mon regard pourrait être le sien ». Votre moi fait vraiment en permanence irruption dans le récit de la cavale de cet assassin. Et on sent que vous mêlez vos pensées aux siennes et qu'il y a quand même une part d'identification. Qu'est-ce que vous cherchez au fond, Antonio Muñoz Molina, à trouver quand vous fouillez ainsi dans les recoins de son âme à lui et dans la vôtre?
Il y a ce point en commun qui est de vivre dans son imagination. J'ai vécu, vous savez, j'étais un passionné de littérature et toute personne passionnée par la littérature vit dans cette imagination qualitative. Mais lui, il vivait dans un monde de romans, de gare, voyez, d'espionnage, avec des histoires de martiens, d'extraterrestres. Il était totalement obsédé et il lisait donc ces romans de gare, vraiment, et puis même en dessous de romans de gare. Il faut que vous mettiez à l'esprit que c'est l'époque de James Bond, vous savez, tous ces romans. Et James Bond, pour lui, c'est un modèle et c'est une façon de se comporter si on est un homme. Ce qui m'intéressait et ce que j'ai recherché en l'espèce, c'est vraiment de comprendre comment la vie de quelqu'un qui est complètement loin de la littérature comme l'est James Earl Ray, à quel point donc ce personnage retrouve dans la fiction et dans la littérature un ancrage, et ça devient très important pour lui quand il invente, par exemple, Raoul, qui est celui qui l'a mandaté pour l'assassinat. Il l'invente en suivant totalement le schéma de ses romans, policiers. Donc, il vit dans son rêve, dans son imagination.
Et vous cherchez aussi à explorer vos propres zones d'ombre. Vous écrivez « Je ne ressentais pas toujours la tension de l'imposteur, mais je n'éprouvais jamais le confort de la sincérité ». Vous n'êtes pas tendre avec vous-même dans ce roman. En tout cas, avec celui d'avant, cet écrivain trentenaire et la double vie qu'il menait. Vous vous regardez quand même avec beaucoup d'exigence et une certaine sévérité. Hein, maintenant, vous êtes apaisé?
Oui, un peu. Ça, ça se dit en français. Mais, oui, parce que j'ai lu, j'ai écrit le livre.
Il y a une chose que...
Tout ça est ressorti au moment où j'écrivais. Je n'ai jamais eu l'envie de me confesser, d'avoir cette confession très intime. Mais quand j'ai commencé à écrire, j'avais cette envie de reprendre le processus d'écriture par lequel j'étais passée sur le livre d'un hiver à Lisbonne. Et puis je me suis souvenu qu'à l'époque où j'écrivais ce livre, l'hiver à Lisbonne, était né mon fils, Arturo. Et ce souvenir a déclenché ce processus d'écriture et l'a replacé dans la vie.
France Culture, il est midi 18 et on est en compagnie d'Antonio Muñoz Molina, l'écrivain espagnol, pour son dernier roman qui vient de paraître au seuil, Comme l'ombre qui s'en va.
Somewhere I read of the freedom of speech. Somewhere I read of the freedom of press. Somewhere I read that the greatness of America is the right to protest for rights.
If we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Darling, we'll walk hand in hand.
Springsteen, dont l'autobiographie Born to Run paraît ce mercredi chez Albin Michel. Pour cette légende du rock américain, Donald Trump serait un abruti qui fait honte aux États-Unis, Antonio Muñoz Molina. Vous êtes d'accord avec lui?
Ah oui,
le danger est terrible.
Que Trump
danger qu'il remporte les élections et qu'il soit président.
Mais abruti, c'est le qualificatif que vous auriez choisi pour le qualifier? Abruti, c'est le qualificatif que vous auriez choisi pour le qualifier?
Oui, oui.
Ah oui, ça vous convient, vous êtes d'accord avec Bruce Springsteen. Parfait.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Antonio Muñoz Molina, vous abordez aussi dans ce roman, comme l'ombre qui s'en va, la dimension toxique de la littérature à se perdre dans l'imagination ou à se réveiller dans la tête d'un autre, et ça dès les premières lignes. La peur m'a réveillée, immergée dans la conscience d'un autre. La peur et l'intoxication par les lectures et les recherches, c'était comme ouvrir les yeux dans une pièce autre que celle où je m'étais endormie. L'écriture, à vous lire, hein, est à la fois une fuite dans laquelle l'alcool devient un allié insidieux qui permet de courir plus vite. Boire, écrivez-vous encore, semblait alors être un devoir littéraire, un chemin vers le bien-être et l'illumination, et en même temps c'est un refuge où ne règnent pas les normes ennuyeuses de la vie réelle et les coups de feu ne tuent personne. Refuge et fuite, l'écriture, la littérature pour vous.
Les périodes ne sont pas les mêmes et il y a différentes façons d'explorer ce refuge.
Une des choses que je...
Une des choses que je voulais mener à bien pendant que j'écrivais était d'analyser cette partie de danger ou la superstition qui accompagne de manière excessive la littérature.
L'autocritique
qu'on retrouve dans le livre et qui porte sur la vie de l'écrivain, c'est-à-dire cet amour pour la littérature que l'on trouve extrêmement noble, cet engagement pour la littérature, il vient au prix de quelque chose. Et souvent, c'est le manque de recul sur la vie réelle, enfin, d'attention. Et puis, la volonté de mystifier, par exemple, de penser que des choses comme l'alcool deviennent mythiques ou mythologiques. Ce romantisme, à mon sens, est un danger. Et puis il est, il peut être dommageable, mais c'est quelque chose que l'on apprend avec le temps.
Le paradis artificiel de Baudelaire, non? Elle compte à la fin.
Dans les paradis artificiels, il raconte à la fin la conclusion à laquelle il arrive et dit que le premier stimuli, la principale drogue d'un créateur, c'est le processus même de création.
Non, le vin, non,
et ce n'est pas le vin, ce n'est pas le hashish, ce n'est pas l'opium. Et je crois que c'est quelque chose qui se découvre et que le prix à en payer est très élevé. Et c'est tout au cours d'une vie que l'on comprend cela. Dans le roman, il y a une autocritique
de cette
conscience trop romantique, presque adolescente. Et en même temps égocentrique.
Alors il y a beaucoup de notions, beaucoup de choses que vous interrogez effectivement dans ce roman, et notamment aussi la question de l'auto-persuasion et de ses vertus. Sous votre plume, James Earl Ray, l'assassin de Martin Luther King, se persuade qu'il n'est pas un fugitif, mais on se rend compte aussi que l'auto-persuasion ne permet pas d'échapper à toutes les formes de déterminisme, à ce que l'on est, ou plutôt à l'environnement dans lequel on s'est construit. Et lui, notamment, a grandi vraiment dans la haine de l'autre. Il a été biberonné à la théorie du complot. Et en même temps, cet homme raciste, assassin de celui qui s'est battu pour l'égalité des Blancs et des Afro-Américains, se rêve d'un avenir en Afrique. Il se rêve mercenaire, mi-justicier quelque part en Angola ou en Afrique du Sud. Vous écrivez dans ses heures d'optimisme le plus insensé, il en était venu à spéculer sur une gloire de justicier, de réfugié politique. L'Afrique du Sud ou la Rhodésie accueillerait en grande pompe cet homme, celui qui avait exécuté l'ennemi de la race blanche. Il y a quand même une grande présente dans ce livre, c'est Lisbonne, c'est la ville qui vous a réuni. Malgré votre interminable enquête, vous ne savez pas vraiment pourquoi lui, il a atterri là. Vous dressez plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est parce qu'il savait que le traité d'extradition entre le Portugal et les États-Unis excluait les crimes passibles de la peine de mort? Est-ce une destination vue au hasard sur un panneau de départ dans un aéroport à Londres? En tout cas, Lisbonne, c'est une ville hors du temps. Et c'était déjà le décor de votre roman « L'hiver à Lisbonne ». cette importance des lieux dans toute votre œuvre, dans tous vos romans, Antonio Muñoz Molina. Vous racontez le plaisir naturel que vous avez à vous immerger dans les lieux, dans les villes, dans les langues, oubliant sans effort vos liens familiaux, votre vie, votre pays, votre ville et même parfois votre nom. C'est incroyable ça, cette capacité à se fondre.
C'est la belleza de la ciudad, ¿no?
C'est la beauté de la ville.
Mi imaginación literaria es una
imaginación littéraire espacial, ¿no? Reste une imagination spatiale. Et comme je le dis au début, le roman est né de cette rencontre entre James Earl Ray et Lisbonne. Je pense que chaque livre est une formule chimique, une réaction chimique. Et en l'espèce, bien, la réaction chimique, c'est l'élément Earl Grey et l'élément Lisbonne.
Vous parlez de cette capacité à vous fondre dans les villes, mais en même temps, vous dites que vous êtes devenu européen sur le sol américain, oui. Où vous avez d'ailleurs dirigé l'Institut Cervantes à New York et longtemps vécu. Vous y êtes encore un peu un pied à New York, un pied à Madrid. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire?
J'ai découvert
l'Europe lorsque j'étais aux États-Unis. Parce que aux États-Unis, je crois que, et il faut revenir sur nous avons un problème. C'est-à-dire que nous, on a l'impression qu'il y a des évidences sur l'Europe. Nous pensons que tout ce qui est fait ici, c'est très naturel, c'est normal. Le fait, par exemple, qu'il y ait des villes, que l'on puisse se balader dans ces villes. Par exemple, si on est malade, on peut aller voir un médecin et on passe par la sécurité sociale et le mélange de liberté et de justice. C'est totalement exceptionnel dans le monde. Et lorsque vous vivez aux États-Unis, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on est profondément européen. Je suis devenu encore plus européen
aux États-Unis. Aujourd'hui, vous l'aimez encore, cette Europe qui ne nous protège plus de rien, semble-t-il, qui ne sait plus accueillir, cette Europe rempart. On a l'impression quand même que dans ce que vous écriviez, tout ce que l'on croyait solide, hein, votre précédent livre, pour reprendre son titre, est en train de se révéler quand même d'une fragilité incroyable, non ?
C'est le problème.
C'est le problème, bien évidemment. J'ai toujours cette idée que, vous savez, on oublie que l'Europe est née de l'Apocalypse. L'Europe est née de la destruction. Elle est née de quelque chose de prodigieux qui est la réconciliation entre l'Allemagne et la France. Lorsqu'on lit l'histoire, le dernier livre de Jan Burumba qui s'appelle L'année zéro et qui porte sur l'Europe, on se rend compte que cette Europe que maintenant nous rejetons, par exemple, ou nous critiquons, eh bien, elle est née d'une période horrible de l'horreur. Donc, il nous faut comprendre que lorsqu'il y a plus de problèmes et que nous y sommes confrontés, et plus cette Europe devient hostile, plus devons-nous défendre l'idéal qu'elle porte en elle. Il n'y a pas d'alternative.
Merci beaucoup, Antonio Muñoz Molina. Comme l'ombre qui s'en va vient de paraître au seuil. Et merci à votre traductrice, interprète Paloma Goulemeau.